France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Masnasavoy.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation? Philosophe, historien et traducteur aussi ont ce livre, ce texte, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leurs pensées. Chaque vendredi, l'une d'entre elles vient nous en parler et aujourd'hui, notre invitée, écrivaine, professeure de littérature, académicienne, a choisi d'évoquer non pas un, mais trois livres. Trois livres qui l'ont accompagnée à différents âges de sa vie, trois livres nés d'une même plume, celle de la géniale Colette, pour qui tout a commencé avec Claudine.
Cette petite Claudine, l'avez-vous inventé ou étiez-vous tout ça?
C'est moi et ce n'est pas moi. Ça a peut-être été un petit moi d'autrefois, dont le plus sympathique que je pourrais dire, c'est une sorte de sauvagerie, dirais-je, dynastique. Nous aimions tous, mes frères et moi et ma mère aussi, nous étions des fervents de la campagne pure. Des animaux sauvages qu'on y trouve, des plantes, et de tout ce qui est encore pour moi tellement séduisant, tellement attachant, mais qui s'éloigne de moi à mesure que je vieillis.
Moi j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui vous jugez Claudine avec un peu de mépris, enfin vous essayez de la repousser dans l'ombre.
Peut-être avez-vous raison. Peut-être ai-je tort de rougir, le mot n'est pas trop fort, de rougir des anciennes Claudine ou de l'ancienne Claudine tout court, mais ne vous en prenez qu'à vous-même, il fallait venir m'interviewer 40 ans plus tôt.
Bonjour Chantal Thomas.
Bonjour.
Bienvenue dans Le Souffle de la Pensée. Vous êtes romancière, essayiste, académicienne. Vous avez enseigné la littérature aux États-Unis, en France. Vous avez écrit de nombreux ouvrages. J'en cite quelques-uns, par exemple sur le Marquis de Sade, Roland Barthes, Casanova. Mais vous avez choisi de parler aujourd'hui de Colette. Pourquoi Colette?
Parce que Colette m'accompagne depuis très longtemps. Et je dirais depuis l'âge de 15 ans exactement. Quand j'ai découvert en livre de poche Claudine à l'école. Et j'ai été à la fois subjuguée et ravie. Et je crois, sans pouvoir me le dire à moi-même, stupéfaite d'une langue aussi riche. Comme si la langue de Colette, cette abondance et cette préciosité des adjectifs, était l'incarnation même de ce qu'elle chante, c'est-à-dire la luxuriance des jardins, la liberté du désir et l'imprévisible des jeunes filles. Et c'est évidemment ce qui m'a vraiment fait de l'effet, c'est que tout se passe à l'école et que mon univers à ce moment-là, c'était l'école.
Oui.
Et c'était la première fois que j'ouvrais un livre où on me racontait mon univers.
Mais vous employez des mots, Chantal Thomas, qui viennent de votre expérience, d'écrivaine, d'essayiste, je l'ai dit, d'académicienne, de professeur de littérature. Quand on a 15 ans, est-ce que déjà vous viennent en tête des mots comme luxuriance, comme vocabulaire, ou c'est surtout d'abord, cette figure de Claudine, ce lieu de l'école qui vraiment vous parle?
Bon, c'est évident,
Il y a toujours une illusion rétrospective.
Mais je pense que ce qu'on sent, quand même, c'est que c'est un vocabulaire qui vous dépasse. Mm. Ça, je ne sais pas très bien comment j'ai réagi, mais c'est sûr qu'il y avait beaucoup de mots que je ne connaissais pas. Ça, j'en suis sûre. Mais évidemment, c'est la personne, la personnalité de Claudine qui m'a complètement plu. Et qu'elle ait le même âge que moi, qu'elle soit du côté d'un corps délié, qu'elle soit aussi une jeune fille... une adolescente solitaire, un peu sauvage. Et moi, j'avais l'espace de la plage, du bord de mer, comme elle avait l'espace de la campagne et des bois. Et c'est aussi vraiment le premier livre que j'ai lu qui ne dissocie pas le comportement de l'héroïne de sa sensualité, de ce que le monde sensuel lui apporte. Et aussi, qui dit tellement bien l'école, les camarades, le mélange de désirs, les fous rires. Bon, j'ai trouvé ça extrêmement libérateur et je crois que ça a joué un rôle réellement décisif pour moi.
Quel rôle ?
Le rôle de me dire que tout était possible.
Dans l'écriture ?
Non, dans l'écriture, non. À 15 ans, j'ai...
Vous ne pensiez pas à l'écriture ?
Même à 25 ans, je ne crois pas que j'y pensais beaucoup. Non, mais je pensais à la manière dont les filles entre elles se regardent, par exemple.
Oui.
Elles sont très, très sensibles à la beauté les unes des autres.
À la fois sous forme de rivalité, mais pas seulement. Elles passent leur temps à se câliner. On va écouter tout à l'heure un extrait de Claudine à l'école, mais il y a une extrême sensualité entre elles. Est-ce que ça vous a fait cet effet-là que moi j'ai ressenti, Chantal Thomas, qui est que quand j'ai lu Claudine à l'école à 18-19 ans, j'ai été heureuse d'avoir un personnage féminin, une héroïne qui n'était pas cucu, mièvre, mais qui avait, voilà, ça vous fait rire, mais beaucoup de liberté. Mais j'ai l'impression d'en avoir perçu la charge érotique et transgressive qu'il n'y a que 2 ans quand je l'ai relu en me disant, bah quand même, je me suis dit, c'est chaud, quoi.
Ah oui. Alors
vraiment, entre Mademoiselle Sergent et Mademoiselle Lantenay, qui sont la directrice et une institutrice, je croyais que c'était très érotique.
Oui, mais là, vous avez tout à fait raison, parce que ce qui m'a... Là, moi, je l'ai lu comme une évidence aussi. Mmh. Je lis ça comme la chose la plus naturelle du monde, parce que je pense que c'est une vérité profonde.
Quelle vérité, selon vous ?
La vérité du désir entre les filles, entre les jeunes filles, comme je pense du désir entre les garçons. Et après, bon, des choix se font, hésitants parfois.
Donc il y a eu Claudine à l'école quand vous aviez 15 ans. Est-ce que ça vous a ouvert la voie vers tout Colette ? Vous êtes dit Colette, vraiment, une sorte d'appétit, de soif de Colette ?
Non, en réalité, je lis pas vraiment comme ça. Je lis un livre et puis après, d'autres livres arrivent et puis je retrouve l'auteur. Ou quelquefois, je lis comme ça, comme Catherine Mansfield en ce moment. Mais après, j'ai lu la suite des Claudine, bien sûr, sans être autant charmée. Et l'autre, Colette m'est revenue dans l'éclat de son talent, de son génie, avec Claudine. Avec la maison de Claudine, là j'ai retrouvé en beaucoup mieux et en condensé l'esprit de Claudine à l'école.
Alors c'est très différent quand même comme texte parce que donc Claudine à l'école, je le rappelle pour les auditeurs et auditrices, c'est le premier livre de Colette qui n'est d'ailleurs pas signé de son nom au départ mais du nom de son mari, Willy, ça a été signé après Colette Willy, Colette et Willy, Willy Colette, etc. Ça date de 1900 et la maison de Claudine, ça date de 1922. Entre-temps, de l'eau a coulé sous les ponts puisque Colette n'est plus du tout avec Willy, elle a refait sa vie tout autrement, c'est devenue une femme de l'être, une femme de scène aussi, une mondaine, on la reconnaît. Et ce qui est assez troublant, notamment par rapport à l'archive qu'on a entendue au début de l'émission, Chantal Thomas, c'est qu'il y a quand même ce trouble entre Colette et Claudine. Claudine pourrait être un double fictif, mais dans la maison de Claudine, c'est elle, c'est Colette qui est là, qui parle, et qui ne parle plus en fait de ce petit personnage de Claudine, qui parle de ses souvenirs d'enfance.
Oui, Colette a mis beaucoup de temps à se libérer de Willy, qui vraiment l'a à la fois l'a utilisé et lui a donné la chance d'écrire. Mais il est évident que ce qui frappe dans la maison de Claudine, c'est qu'il n'y a plus aucune complaisance du côté d'une sorte de scénario libertin qui était vraiment la touche de Willy, à laquelle elle s'associe, mais qu'elle n'assume pas plus tard. Son regard est différent. Son regard est beaucoup plus près d'une sorte de justesse des sentiments aussi, de justesse de la souffrance aussi. Et la maison de Claudine, c'est l'apparition du personnage de la mère et d'une
Cido.
Mère... Cido. Cido. Mmh. Que seul le père avait le droit d'appeler Cido. Et que par ce livre, Colette... Elle s'autorise à l'appeler Cido. Et c'est la mère, justement, bien aimée et adorée du père. Et qui, par rapport aux enfants, est comme une sorte de mère protectrice, peut-être trop protectrice, mais aussi une magicienne qui fait passer à travers son comportement, à travers ses mots, le charme tout-puissant de la nature. Et Colette, de livre en livre, continuera de faire vivre sa mère. Dans La naissance du jour, c'est une autre version de la mère, par les courriers de la mère.
Vous voulez dire que c'est en s'émancipant de Willy que Colette, finalement, au fur et à mesure de son œuvre, a renoué avec une forme plus autobiographique, plus clairement autobiographique, plus clairement familiale aussi ?
Je pense que l'émancipation de Willy, elle est sans doute assez rapide. Et elle guette, elle essaie, c'est financier aussi, le lien à Willy aussi. Et c'est, j'aime l'idée que c'est par la gymnastique qu'elle va se sortir de cette relation conjugale qui l'étouffe. Et donc, il y a entre la Colette des Claudines et la Colette libre, il y a tout un temps où, en effet, elle travaille comme mime, elle travaille au théâtre, et ça nous donnera l'arrière du music-hall. Et l'envers du music-hall. Et le personnage de la mère, il est conducteur de tout l'univers d'enfance de Colette. Donc la mère, elle est celle qui symbolise un temps.
Justement, parlons de temps, il y a aussi un troisième livre que vous vouliez évoquer, Chantal Thomas, et qui justement en fait permet presque de rythmer les âges de la vie. C'est-à-dire que Claudine a l'école 15 ans, la maison de Claudine, c'est la quarantaine, c'est le mi-temps de la vie, on pourrait dire. Et puis, Le Fanal Bleu, qui est son tout dernier texte, qui est assez déconcertant, car on retrouve complètement Colette. Mais là, il y a un abandon total. Bon, il y a des indications quand même de temps et de lieu, mais il y a presque un abandon total vraiment de toute narration, de toute structure. C'est un texte très évanescent et c'est le dernier texte qu'elle a écrit.
C'est magnifique.
Le Fanal Bleu.
Oui, c'est magnifique. Et c'est pourquoi j'ai choisi trois livres, parce que pour moi, ce serait faux un seul livre. C'est trois livres et trois livres qui vous accompagnent au fur et à mesure de votre propre expérience de l'existence. Et ce que j'aime beaucoup de choses de Colette, mais ce qui me fascine le plus, ce qui m'intéresse le plus et me donne envie d'écrire, c'est la manière dont elle a suivi avec une intelligence et une perspicacité rare, et en trouvant les mots pour le dire, l'histoire de son corps. L'histoire de son corps et l'histoire de son désir. Et ce qui, dans Le Fanal Bleu, relève, je trouve, à la fois du génie de l'écriture, mais aussi de sa personnalité et de son attachement à l'existence, c'est que on pourrait suivre l'histoire par ce fruit qu'elle se fait envoyer de la campagne du départ, et elle appelle ça cornuelle, mais elle dit que c'est macre en fait. Et quand on lui donne, elle a cette phrase merveilleuse où elle dit conserver. Ce que je souhaite, c'est conserver l'avidité. Et elle ajoute, toutes les forces font humble en vieillissant, mais pas l'avidité. Pas pour moi, je reste avide. Et elle reste avide et vivante entièrement jusqu'au bout.
Mais c'est un terme bizarre, l'avidité, Chantal Thomas, vous ne trouvez pas? Il y a quelque chose de presque... Moi, j'aurais dit plutôt soif. Je trouve que le mot soif est plus valorisant que l'avidité qui semble presque être quelqu'un en manque ou intoxiqué ou... Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, l'avidité?
C'est le mot qu'elle utilise et je pense que c'est soif est beaucoup plus poétique et on pense à Rimbaud.
Je suis plus, rebeldienne finalement.
Avidité, c'est quelque chose de vraiment paysan.
Ah oui.
Je sais pas.
Mais je sais pas.
C'est en vous parlant que je me dis, c'est presque plus fort dans le besoin et c'est surprenant. Mais je trouve très souvent les adjectifs ou les mots, les termes, les noms ou les verbes choisis par Colette surprennent un peu, non?
Oui. Mais c'est ça que je voulais dire. Dans avidité, il y a presque quelque chose de l'ordre du péché moral.
Oui.
C'est presque une faute aussi d'être avide. Donc, elle garde quand même ce côté transgressif de l'avidité.
Oui, oui, oui. Ce côté aussi, c'est un appétit féroce.
Même qui peut jouer contre elle, d'ailleurs.
Vous pensez ? Comment ?
Elle semble en souffrir à la fin dans le Fanal Bleu. Enfin, on va revenir sur le texte du Fanal Bleu, mais il y a des moments où justement ça, cette limite de cette force peut aussi se retourner contre elle. C'est-à-dire que vraiment, elle en souffre de cette limitation.
Oui, mais c'est-à-dire, elle, avec un mélange de résignation, mais aussi de sagesse profonde, elle se dit, puisque par la vieillesse et par l'arthrite qui l'empêche de vraiment se déplacer librement, elle va circonscrire son domaine et elle va faire de ce qu'elle appelle son lit radeau, le lit où elle écrit et d'où elle regarde la vie qui est pour elle maintenant réunie dans les jardins du Palais Royal, elle va en faire son dernier royaume. Mmh. Donc c'est à la fois l'abandon de tous les espaces qu'elle peut plus parcourir, mais la reconquête de l'espace à partir duquel elle continue d'être Colette.
On va faire un retour en arrière, Chantal Thomas, et on va retourner à Claudine à l'école, sur les bancs de l'école, au moment des grosses chaleurs.
Dès les premiers jours de grosses chaleurs, il est convenu que l'eau de la pompe devient imbuvable. Elle l'est en tout temps. Et chacune apporte au fond du petit panier, quelquefois dans la serviette de cuir ou le sac de toile, une bouteille pleine de boissons fraîches. C'est à qui réalisera le mélange le plus baroque, les liquides les plus dénaturés. Pas de coco, c'est pour la petite classe. À nous l'eau vinaigrée qui blanchit les lèvres et tiraille l'estomac, les citronnades aiguës, les menthes qu'on fabrique soi-même avec les feuilles fraîches de la plante, l'eau de vie chipée à la maison et empâtée de sucre, le jus des groseilles vertes qui fait regipper. La grande Anaïs déplore amèrement le départ de la fille du pharmacien, qui nous fournissait jadis des flacons pleins d'alcool de menthe trop peu additionnés d'eau, ou encore d'eau de boteau sucrée. Moi qui suis une nature simple, je me borne à boire du vin blanc coupé d'eau de sels, avec du sucre et un peu de citron. Anaïs abuse du vinaigre et Marie du jus de réglisse, si concentré qu'il tourne au noir. L'usage des bouteilles étant interdit, chacune, je le répète, apporte la sienne, fermée d'un bouchon que traverse un tuyau de plume, ce qui nous permet de boire en nous penchant sous prétexte de ramasser une bobine, sans déplacer la bouteille couchée dans le panier, le bec dehors. Rien ne se passe en vérité. La chaleur nous ôte tout en train. Luce m'assiège moins de ses importunes câlineries. Des velléités de querelle s'éveillent à peine pour tomber tout de suite. C'est la flemme, quoi. Et les orages brusques de juillet qui nous surprennent dans la cour nous balaient sous des trombes de grêle. Une heure après, le ciel est pur.
Un extrait de Claudine à l'école de Colette qui est sorti en 1900, lu par Anaïs Isbert. Chantal Thomas, le micro s'est ouvert juste après. Vous avez dit « c'est beau, je trouve » et vous avez ri aux éclats. C'est vous qui nous avez indiqué ce texte. Pourquoi celui-ci en particulier ? C'est vrai que c'est difficile de faire un choix après. Mais...
Oui, c'est très difficile, mais ce qui m'a beaucoup plu là, c'est tous les détails sur les enfants qui dévorent la colle qui grignote les crayons, toute justement cette voracité complètement folle, et aussi de faire sentir une classe, de faire sentir un groupe de jeunes filles ensemble ou d'adolescentes, et ce qui passe entre elles, ce qui passe dans le non-dit, dans la flemme, comme a dit. Et moi, je trouve qu'on ressent vraiment ce temps, l'école, juste avant les vacances, avant l'été. Moi, c'est sensuellement extraordinairement communicatif.
Je repense souvent à la grande Anaïs qui passe son temps à manger en classe, mais qui surtout, en fait, mange des crayons.
Oui.
Vraiment, mange des crayons et je me pose parfois la question de comment faisait-elle, comme si elle existait vraiment, pour digérer ces crayons-là. Et c'est vrai qu'il y a ce qui est assez fascinant, c'est ce portrait de l'enfance de ces jeunes filles qui sont en train de devenir, qui vont bientôt devenir des jeunes femmes. Elles sont vraiment sur le seuil de ce passage, mais qui frôlent en permanence le danger. Il y a quelque chose qui rôde, mais qui est jamais inquiétant.
Oui, c'est l'enfance sauvage. Et la grande Anaïs, il faut rappeler qu'elle a un teint très jaune quand même.
Oui, donc elle n'a pas bonne mine. Elle le digère pas si bien que ça, c'est ça? Est-ce que vous, ça vous intéresse, Chantal Thomas, la question du jeu? C'est la question qui était dans l'archive qu'on a diffusée au début de l'émission. Savoir si Claudine, c'est Colette, savoir qui est le jeu qui parle dans le texte. La question de, est-ce que c'était déjà un texte autobiographique? Est-ce que c'était une fiction? Est-ce que c'est de l'autofiction, les prémices de l'autofiction? Est-ce que vous trouvez que c'est une question intéressante?
Oui, c'est une question très intéressante, mais c'est une question... par rapport à laquelle il n'y aura jamais de réponse. Il n'y a jamais une butée fixe qui vous dira « ça, c'est la Colette d'origine ». Et je pense que c'est par nuance et par gradation que Colette, à partir de son expérience, mais l'expérience, notre propre expérience, dès qu'on la met en mots, elle est déjà fictionnalisée. Donc Colette, à partir du plus près, disons, et à certains moments de sa vie, de ce qu'elle a vécu, crée ses personnages et son écriture. Mais il est évident qu'au fil des livres, Colette est de plus en plus près du jeu. Et les derniers textes, comme vous l'avez dit, le Fanal bleu, qui fait suite 4 ans après à L'étoile vespère, qu'elle pensait être son dernier livre, il est sans désir, je pense, et en tous les cas sans aucun effort de fictionnalisation. Elle cherche au contraire à être littéralement juste, presque musicalement, avec les souvenirs enfouis et surtout les amis perdus, mais aussi avec les moments de grande vie de son existence actuelle.
Mais comment on peut être juste dans ce type de récit? À partir du moment où, comme vous l'avez dit, dès que l'on met des mots, le vécu devient de la fiction.
Mais c'est notre vie quotidienne, non? Dès qu'il nous arrive quelque chose et la première personne à qui on le raconte, on a déjà fait un choix. On a déjà supprimé certains détails, grossi d'autres, et on s'est mis, nous, dans une position de spectatrice ou d'actrice, d'héroïne, de ridicule. Donc non, c'est constamment.
Donc on peut être juste ou pas, malgré tout?
Oui, on peut être juste.
Malgré cet ajustement-là.
Quand j'écrivais les adieux à la reine, par exemple, je me suis complètement identifiée à la lectrice. Mm-hmm. Et ce que j'ai mis, c'est pas ce que j'aurais pu vivre au XVIIIe siècle, je n'en sais rien. Mm. Mais ce que j'ai essayé de traduire au plus près, c'est une émotion d'amour vers comment la lectrice est tournée vers Marie-Antoinette. Et je pense qu'au fil des livres, Colette, et ça va varier, va réussir à saisir ce qui la lie, ce qui l'a lié à sa mère, à son père, à ses frères et au paysage. Elle va reprendre constamment des variations sur le paysage.
Alors, mais il faut avoir quelque chose à dire d'une certaine manière. Quand on raconte une anecdote, non mais Chantal Thomas par exemple, quand on raconte une anecdote, c'est qu'on a envie de dire quelque chose de soi. Quelque chose, effectivement, qui nous ridiculise ou qui nous valorise ou qui, d'ailleurs, plus pervers ou plus marrant, qui nous valorise tout en nous ridiculisant. Il y a beaucoup aussi cette figure-là de, voilà, d'être un peu la personne, un peu le loser magnifique, quelque chose de l'ordre du gag. Mais il faut avoir envie de dire quelque chose de soi. Est-ce que c'est vraiment une écriture de soi, Colette? Comme on pourrait parler, voilà, du grand genre des écritures de soi, des journaux, des mémoires, même si le jeu est transformé, qu'est-ce qu'elle voulait nous dire d'elle?
Ah, c'est une écriture de soi, Colette. Je pense que c'est... Elle a voulu dire l'histoire très lente, progressive, d'une femme qui finit par réussir à signer Colette, et à plus signer Colette Willy, à ne plus être... Madame de Jouvenel, et le
qui était le nom de son mari après
Willy.
Oui, et après Missy, sa maîtresse.
Enfin, ouais. Oui.
Je ne vais pas raconter toute la vie de Colette, mais oui.
Exactement, exactement. Et je pense qu'elle écrit au fur et à mesure du lent et très attentif cheminement de sa conquête d'elle-même et de son écriture. Elle a le sentiment d'avoir conquis quelque chose, je pense. Et aussi de l'aura extraordinaire liée à ses lecteurs.
J'aimerais
elle,
vous...
Quand, justement, dans le Fanal Bleu, elle parle de son courrier, et c'est magnifique. C'est des gens de toutes sortes qui lui écrivent, qui lui demandent de mettre des, qui lui demandent des recettes de cuisine ou quoi faire dans le quotidien. Elle est aussi l'espèce de voix d'une sagesse féminine, alors qu'elle a, elle s'est livrée à toutes les folies.
J'aimerais vous faire écouter, sur cette question justement de son rapport à Willy, cette archive de 1950, extrait de la même interview que celle qu'on a diffusée au début de l'émission, où elle revient justement sur cette tutelle de Willy.
Je vais vous poser une question indiscrète, mais je voudrais savoir pour quelle raison une jeune femme douée comme vous l'étiez à l'époque a accepté si longtemps la tutelle de Monsieur Willy.
Ouais, évidemment, ça ne peut pas vous paraître naturel, mais moi... ça me paraissait simplement inévitable parce que si j'avais voulu suivre mon penchant ou presque la nécessité où j'étais, je ne l'ai pas suivi parce que il aurait fallu pour ça que je quittasse M. Willy et que je retourne à ma famille. Je n'avais pas d'autre refuge. Or, je ne voulais absolument pas, mais absolument pas, que ma mère découvrit que je n'étais pas heureuse. Et puis, il faut songer tout de même, il fallait songer tout de même à la nécessité matérielle de certaines choses. Or, comme on dit, je n'avais pas le sou, et ma famille non plus. Alors, il fallait leur retourner là-bas en dépouillée, en personne qui a raté sa vie par sa seule faute d'ailleurs. Alors je suis restée où la chèvre est attachée. Il faut qu'elle broute.
Voilà cette archive du 3 mars 1950.
Oui, elle est très claire. Elle est très claire. Quand Colette arrive à Paris, on a tendance à l'oublier, mais elle a épousé Willy. Elle est une jeune fille absolument sans dot. Le père les a ruinés. Et elle est sans dot, sans diplôme, puisqu'à cette époque-là, par le brevet, rien n'était possible. Et donc, elle est dans une dépendance matérielle totale. Et quand je parle de très lent cheminement vers la liberté, c'est en effet très lent, parce que c'est le divorce, elle va l'obtenir après plus de 10 ans. Mais elle est très progressive et très... Elle a quelque chose vraiment d'un savoir paysan, Colette. Et à un moment, elle utilise l'expression « vivre sur soi », c'est-à-dire vivre avec ses propres ressources. Et avec une obstination et un sens du calcul et de l'émerveillement, elle a les deux, elle va accroître son domaine, ses richesses, et aller vraiment dans ce sens. Et sa liaison avec Missy est très intéressante aussi.
Pourquoi ?
Parce que c'est à la fois... Elle affiche l'homosexualité, elle affiche la liberté du désir, mais elle vit aussi protégée et entretenue par Missy, qui va lui...
Qui est une marquise, hein.
C'est la marquise de Morny, qui va lui offrir, presque comme cadeau de rupture, la maison de Rosven. Colette est quelqu'un qui, dans tous les sens du terme, accroît son domaine.
Est-ce que vous pensez que ça a aussi porté préjudice à Colette d'avoir un parcours aussi exceptionnel ? Que quand on lit Colette, on se dit aussi qu'on lit une grande autrice et un parcours d'exception qui va en fait masquer le rapport qu'on peut avoir à son œuvre en partant plus du fait qu'on va la ranger dans les grandes femmes historiques ou dans les grandes écrivaines plutôt que de s'intéresser à la simplicité et à la fois la luxuriance de sa langue, en fait. On va s'en tenir au personnage plus que, au plaisir qu'on a à la lire. Et même parfois, elle va être caricaturée. Maintenant, Colette est étudiée, elle était au programme de l'agrégation de lettres, elle est au bac. Mais pendant un moment, elle a été lue comme une autrice un peu, pour les femmes.
Oui, alors je pense qu'il faut lier les deux. Vraiment. Et voir comment son personnage féminin, comment ses décisions successives trouvent leur écho ou leur distorsion aussi dans l'écriture. Mais en effet, il n'est pas question de faire passer les anecdotes de sa vie ou même les grands choix existentiels qu'elle a pu faire avant les livres. Mais que les deux se répondent, c'est bien. Mais l'exploit triomphal, pour moi, c'est évidemment le style. Cette langue qui n'est qu'à elle et qui est... Je pensais en relisant La Maison de Claudine que chaque texte est un poème en prose.
Oui. D'ailleurs, dans l'extrait qu'on a entendu de Claudine à l'école, il y a ce moment, et vous avez parlé de non-dit, Chantal Thomas, ce moment où la narratrice dit « Rien ne se passe en vérité, c'est la flemme, quoi. » C'est tellement simple et on pourrait à la fois commenter ça pendant des heures et en même temps, on pourrait aussi ne rien en dire. C'est juste la flemme.
Voilà. Et elle a ce... Elle l'a dit elle-même. Elle est pas pour les longs textes. Elle est bonne dans la forme brève. Et je trouve que ça nous... Colette est inspirante par rapport à l'écriture, bien sûr. Mais elle est inspirante pour le quotidien.
Par exemple,
elle saisit ce qui dans le quotidien est l'instant vivifiant. Et moi, si je pense à Colette, par exemple, certains jours, je vois mieux quand je me promène au but de Chaumont, par exemple. Il y a des tas de jours où je pense pas à elle, bien sûr. Mais d'autres fois, son génie de la description des fleurs, par exemple. Moi, j'adore les fleurs et je trouve que les fleurs, c'est la présence vivante qui nous rassure aussi, qui nous charme et qui est à la fois du côté de l'hédonisme, de la sensualité, de la volupté, mais qui est partout, qui est vivace. Et les textes de Colette, pour moi, c'est vraiment des fleurs. Un de ses livres que je préfère, c'est aussi L'herbier de Colette, où chaque texte est dédié à une fleur. Et c'est la force de Colette aussi, et c'est pourquoi j'ai choisi ces trois livres, c'est qu'elle est du côté du désir et de la force de vie.
On va écouter un autre extrait donc de Colette, un extrait cette fois-ci de La Maison de Claudine, cet extrait du premier chapitre qui a ce titre génial, Où sont les enfants ?
La maison était grande, coiffée d'un grenier haut. La pente raide de la rue obligeait les écuries et les remises, les poulaillers, la buanderie, la laiterie, à se blottir en contrebas tout autour d'une cour fermée. Accoudée au mur du jardin, je pouvais gratter du doigt le toit du poulailler. Le jardin du haut commandait un jardin du bas, potager resserré et chaud, consacré à l'aubergine et au piment, où l'odeur du feuillage de la tomate se mêlait en juillet au parfum de l'abricot mûri sur espalier. Dans le jardin du haut, deux sapins jumeaux, un noyer dont l'ombre intolérante tuait les fleurs, des roses, des gazons négligés, une tonnelle disloquée. Une forte grille de clôture au fond, en bordure de la rue des Vignes, eût dû défendre les deux jardins. Mais je n'ai jamais connu cette grille que tordue, arrachée au ciment de son mur, emportée et brandie en l'air par les bras invincibles d'une glycine centenaire. La façade principale, sur la rue de l'Hospice, était une façade à perron double, noircie, à grandes fenêtres et sans grâce, une maison bourgeoise de vieux village. Mais la roide pente de la rue bousculait un peu sa gravité, et son perron boitait, 6 marches d'un côté, 10 de l'autre. Le reste vaut-il la peine que je le peigne à l'aide de pauvres mots? Je n'aiderai personne à contempler ce qui s'attache de splendeur dans mon souvenir au cordon rouge d'une vigne d'automne que ruinait son propre poids, cramponné au cours de sa chute à quelques bras de pin. Ces lilas massifs, dont la fleur compacte bleue dans l'ombre pourpre soleil, pourrissait tôt, étouffée par sa propre exubérance. Ces lilas morts depuis longtemps ne remonteront pas grâce à moi vers la lumière, ni le terrifiant clair de lune. Argent, plomb gris, mercure, facettes d'améthyste coupante, blessant saphirs aigus, qui dépendaient de certaines vitres bleues, dans le kiosque au fond du jardin. Maison et jardin vivent encore, je le sais. Mais qu'importe si la magie les a quittés, si le secret est perdu qui ouvrait lumière, odeur, harmonie d'arbres et d'oiseaux, murmure de voix humaine qu'a déjà suspendu la mort, un monde dont j'ai cessé d'être digne.
France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
La maison de Claudine, lue par Anaïs Sisbert. Chantal Thomas, vous n'avez cessé durant la lecture de ce texte, c'est extraordinaire, c'est fabuleux.
Oui.
Voilà. Vous êtes toujours autant émerveillée.
Ah oui, oui. Et en écoutant ce texte, si joliment lu d'ailleurs, je pensais que la langue de Colette, son rapport à l'adverbe, au rythme, parce que chaque phrase a des rythmes différents, c'est exactement ce qu'elle dit du jardin ou du souvenir de la maison. C'est une exubérance contenue. Et je crois que si ces textes sont si frémissants, c'est qu'on sent qu'elle retient un débordement possible. Au contraire de beaucoup de textes qu'on lit, où on a l'impression que la langue est très pauvre et qu'il faut... On est obligé de s'en tenir à ce qui nous est donné. Là, au contraire, on sent comme une aura ou une vapeur d'au-delà.
Oui, c'est-à-dire que les textes dont vous parlez, qui seraient très pauvres, seraient au contraire dans une forme d'excès, en feraient trop.
Exactement.
Alors que là, toute la beauté vient justement du fait d'être contenue.
Exactement, exactement. Et ce qui est frappant dans ce texte, mais dans presque tous, mais là c'est d'autant plus vrai que cette maison, elle est à l'origine d'elle-même, elle est la maison originelle, c'est à quel point tout vit, tout est raconté comme des personnages vivants. La maison, la fleur, la route, le petit toit, la grille, il y a un passage continu entre les éléments ou les objets et les personnages, et les personnes.
Et l'espace mental de Colette. On voit bien que la maison natale, c'est comme la langue maternelle.
Exactement.
C'est-à-dire que ça n'est pas seulement le lieu où elle est née d'ailleurs, oui, où elle a grandi, mais c'est vraiment un lieu imaginaire. C'est le lieu dont on parle quand on est nostalgique, auquel on ne reviendra plus. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la première phrase de Claudine à l'école, c'est quand elle décrit Montigny, qui est donc le double de Saint-Sauveur-en-Puisé, où se trouve sa maison natale, et elle dit « je n'y mourrai pas ».
Oui, elle sait déjà que c'est un lieu sans retour, et que plus elle avance dans l'âge, plus elle vieillit. Très souvent, elle utilise la formule « je n'ai qu'à fermer les yeux ». Et elle ferme les yeux et tout ressurgit. Et nous, on est devant la page, on lit, et ça surgit devant nos yeux.
Pour autant, elle n'est pas nostalgique.
Non, non, précisément parce qu'elle peut
le convoquer.
Le convoquer, absolument.
Est-ce que ça vous fait aussi cette sensation, Chantal Thomas, quand vous lisez un livre de Colette, quel qu'il soit, de gorge nouée à la fin du livre ? Le temps a passé. On ne pourra plus jamais revenir en arrière. C'est comme des fins de vacances, en fait. On finit un roman de Colette ou un texte autobiographique et quelque chose s'est passé sans qu'on s'en rende compte. Voilà, le mois de juillet, le mois d'août est passé, les vacances à la plage, les glaces, tout ça, c'est fini. Et voilà, on a quand même de l'amertume. Il n'y a pas de nostalgie, mais il y a une sorte d'amertume quand même à se dire que le livre est fini. Et que ce qu'on a vécu avec elle ne reviendra plus jamais.
Alors ça, je ne le sens pas du tout. Parce que il suffit que je reprenne le même livre et que je l'ouvre au hasard, la phrase me reprend. C'est-à-dire, je distingue pas vraiment les livres de Colette des uns aux autres, entre les uns et les autres, parce que c'est un... ça peut se lire en continuité ou dans le désordre. Il y a quelque chose de l'univers proustien dans Colette.
Une sorte de flux de conscience même.
Oui, mais enfin...
Vous pouvez dire non, hein.
Oui,
je peux dire n'importe quoi.
Oui, en fait, j'ai jamais pensé à ça, oui.
Une sorte de flux plutôt que de conscience. En tout cas, quelque chose qui nous entraîne dans un courant sans distinction.
J'étais en train de relire, de relire Virginia Woolf, c'est quand même très différent, oui.
Vous avez parlé tout à l'heure de poèmes en prose à propos des textes de la maison de Claudine. La maison de Claudine, la figure de Claudine n'apparaît plus. Ça ne fait pas partie du cycle de Claudine en tant que telle. C'est pas comme Claudine s'en va ou Claudine à Paris. Claudine avec elle, ça n'a rien à voir. C'est 35 chapitres de souvenirs avec ce premier chapitre génial où en fait la mère passe son temps à chercher les enfants. Où sont les enfants? D'ailleurs, dans ce texte, la mère n'est pas encore apparue, mais c'est vraiment la description justement d'où se cachent les enfants. Qu'est-ce qui reste en fait de cette enfance qui s'est cachée? Pourquoi parliez-vous de poèmes en prose?
Parce que tout est sur le mode de la magie. La mère est conductrice d'émotions et d'émotions qui la mettent en contact avec pas seulement ce petit jardin, il est un condensé de l'univers. Les enfants sont justement le contraire des enfants qu'elle détestera après ou qu'ils importuneront dans les jardins du Palais Royal. Ils sont très discrets, secrets, ils ont chacun leur occupation étrange. Et donc c'est comme une troupe un peu de magiciens qui se retrouvent le soir sous la lampe familiale. Et à un moment, elle utilise ce mot qui, pour moi, est toute l'œuvre de Colette et toute la force de son regard, une féerie simple. Et c'est cela que nous communique Colette quand on la lit.
Et elle le communique, vous le disiez, dans un regard qui est quotidien, c'est-à-dire qu'on regarde autre chose, on regarde autrement des choses qui nous entourent. Est-ce que vous, en tant que lectrice ou comme professeur et comme écrivaine, ça change votre manière d'écrire? Est-ce que parfois vous pensez à Colette en vous disant « Colette n'aurait jamais écrit de cette manière-là, je suis trop excessive, il faut que je me contienne, la manière dont je me sers des adverbes », est-ce que ça vous a guidé aussi de cette manière-là?
Non, pas du tout. Ce qui m'a guidée, c'est réellement, très précisément, la maison de Claudine, cette idée de fragment. Et quand j'ai écrit « Souvenirs de la marée basse », il est sûr que ce texte m'a beaucoup inspirée. Pas dans le détail, voyez, de la construction des phrases ou du choix du vocabulaire, mais dans l'orientation. D'abord dans le choix du fragment qui empêche l'écrasement par la chronologie et qui permet aussi de garder ensemble des visions qui peut-être ne coïncident pas. Ce qui, pour parler de sa mère, est vraiment important. Parce qu'on sait que c'est un kaléidoscope, la figure maternelle. Et aussi une certaine distance. Et peut-être plus important que tout, de penser à sa mère à des âges différents qui se croisent, qui peut-être disent pas la même chose, mais qu'on essaie de rassembler dans leur diversité. C'est-à-dire, elle écrit sur sa mère alors qu'elle a à ce moment-là plus de 40 ans. Et c'est évidemment pas la mère qui est en train d'appeler les enfants. Mais c'est là aussi. Et quand pour Souvenir de la marée basse, qui pour moi était un livre originel pour aller dans un autre sens, plus autobiographique, il doit énormément à la maison de Claudine. Mais plutôt que la maison, j'ai choisi la plage.
Oui, vous êtes plus plage alors que...
C'est la maison de ma mère, c'était la plage.
Voilà, Alors que Colette, et d'ailleurs dans un des textes de la maison de Claudine, elle parle de sa fille Belle Gazou, qui, durant des vacances à la mer, préfère passer son temps dans la forêt de pins à côté de la mer, plutôt que sur la plage, comme si elle faisait une forme d'infidélité à l'image qu'on se faisait de la plage. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'au fur et à mesure de la maison de Claudine, le temps passe sans qu'on s'en rende compte. Et c'est Colette qui devient mère elle-même de cette petite fille qui est surnommée Belle Gazou. Et elle a cette très belle phrase sur Belle Gazou, qui restitue très bien un sentiment qu'on peut avoir quand on voit un enfant. Elle dit « Belle Gazou est muette quand elle coud. Muette longuement et la bouche fermée, cachant les incisives larges, toutes neuves. Elle se tait, elle... » Écrivons donc le mot qui me fait peur. « Elle pense. » C'est vrai que des enfants qui pensent, ça fait peur.
Mais ce que Colette dit très bien, elle est aussi quelqu'un de la dissimulation. C'est pour ça que c'est l'autofiction, dans la mesure où la fiction masque et révèle à la fois, c'est vrai, c'est très Colette. Mais elle a le sens du non-dit, Colette. ça s'entend. Quand on l'écoute parler, on le sent. Elle réfléchit très profondément.
C'est assez frappant cette idée du non-dit, c'est-à-dire de décrire quelque chose qu'on ne dit pas.
Oui, et absolument. Et aussi, je crois profondément que c'est en écrivant que on découvre.
Est-ce que vous pensez que quand on écrit, on écrit des non-dits, c'est-à-dire qu'on on dit des choses pour ne pas en dire d'autres?
On s'avance dans un non-dit, oui, on s'avance. C'est peut-être pas qu'on éclaircit, mais les mots se posent sur quelque chose qui parfois nous surprend.
Vous avez été surpris, vous, parfois, en écrivant, vous parliez de souvenirs de la marée basse, presque dépassé par ce que vous étiez en train d'écrire.
Oui, oui, j'ai été surprise. Personnellement, j'ai été surprise par la force sous-marine, un peu, de mon rapport à ma mère, qui n'avait rien à voir avec les échanges quotidiens. Et ce que je trouve admirable dans la figure de Sido, c'est qu'en effet, c'était beaucoup plus complexe et beaucoup plus, sans doute, conflictuel qu'elle le dit. Mais elle a trouvé tous des traits qui constituent une figure magique et pour nous, conductrice. Et c'est une construction, comme une œuvre d'art.
On va écouter maintenant un extrait du Fanal bleu, mais un extrait qui est dit par Colette elle-même et qui a été dit dans une archive un an avant la publication du Fanal bleu.
La radiodiffusion nous demandait ce jour-là, à Jean Cocteau et à moi, comme nous sommes tous voisins, nous demandait d'enregistrer, comme vous voulez, un bout de conversation. Et justement, la voiture était en bas. Et justement, Jean Cocteau était chez moi, assis à la poupe de mon radeau de travail. Tant de coïncidences heureuses ne nous empêchèrent pas, Jean et moi, d'échanger un regard. Oui, je surpris dans l'œil bien coupé de Jean une appréhension qu'il dut rencontrer aussi dans le mien. Il s'agissait en somme d'improvisation et j'improvise très mal. Et je ne me familiarise pas avec ce truc-là, ce campanule, cette poire, ce concombre, enfin ce machin qui déjà nous tendait, comme il le tend en ce moment-ci, qui nous tendait une main insidieuse. Il ferma les yeux, se voila le visage de ses longues belles mains et ma foi, il démarra courageusement. Et pendant ce temps-là, j'admirais sa diction, ses ralentis opportuns, son ton varié d'orateur musicien. Je répliquais de mon mieux, mais mon mieux, vous savez, il n'était pas tellement bien mon mieux, non? Nous avions hâte de nous dissimuler notre crise de timidité radiophonique.
Pourquoi met-il la tapisserie?
Oh mon Dieu, je fais des choses charmantes, et puis là je fais un petit tapis pour Jean Cocteau.
Eh bien, en somme, tu cherches tous les prétextes, merci d'abord, mais tu cherches tous les prétextes pour ne pas travailler. Mais ce travail a l'air de se faire tout seul, c'est cela qui est miraculeux, parce que tu es tout de même une fontaine d'encre.
Je suis une fontaine d'encre. Comme c'est triste, Jean. Parle-moi de tout ce que tu fais, mais non pas de ce que je dois faire, moi.
Je voudrais tellement que tu me dises tes secrets, voilà ce qui me plairait.
Je n'en ai pas.
Tu vois, j'avais raison de ne pas vouloir rester.
Non.
Alors, ma Colette,
tu veux t'en aller?
Oui, je te laisse.
Voilà l'échange entre Colette et Cocteau. Alors, c'est une archive de 1952. Elle ne correspond peut-être pas à l'anecdote qu'elle en donne dans le Fanal bleu. En tout cas, on découvre dans le Fanal bleu tout un ensemble d'impressions quand elle est à Genève, quand elle regarde le Palais Royal. Les enfants qui font pipi dans les jardins du Palais Royal, ça c'est assez drôle. Et donc, cette anecdote, tout à coup, d'une crise de timidité radiophonique. Pourquoi avoir choisi cet extrait, Chantal Thorez? Est-ce que c'était un message à nous faire passer par rapport au micro, cette poire, cette campanule, comme elle l'appelle?
Ouais, c'est aussi quelque chose pour situer Colette par rapport au temps et nos propres timidités ou difficultés par rapport aux innovations technologiques. Et je trouve très, très beau qu'elle soit resituée pratiquement, concrètement, par rapport à un, entre guillemets, nouveau mode de communication. Parce que Colette a le génie de la communication par l'écrit. Elle a été sur scène une mime fabuleuse. Elle était, paraît-il, beaucoup moins bonne dans les pièces avec parole, beaucoup à cause de son accent. Et quand on l'entend, on comprend beaucoup de choses. On comprend son génie de l'improvisation, son jeu. Et puis, elle est là, quoi. C'est très, très beau.
Mais c'est assez paradoxal ce que vous dites. Ça veut dire que presque, parce qu'elle a un accent, elle a une voix, les archives de Colette, elles sont diffusées, rediffusées à la radio. Elles sont géniales à écouter avec son accent. On adore écouter Colette et puis elle est drôle. Là, cet échange avec Cocteau est presque improbable. Mais en même temps, on a l'impression aussi effectivement qu'elle joue quelque chose, qu'elle n'est pas sincère, comme on peut la voir peut-être. Dans un texte comme La Maison de Claudine, il y a une forme, voilà, elle est plus apprêtée.
Oui, mais il ne faut pas oublier que l'écriture, c'est vraiment un lent travail. Et justement, il y a un travail. Elle était très, très assidue et très obstinée dans la conquête de la forme, du mieux, comme elle dit. Et moi, je trouve ça très beau. Elle adorait le jardin. Elle est quelqu'un qui travaillait de ses mains. Il y a des textes magnifiques sur ses mains. C'est des mains de femmes qui touchent la terre, qui manient les objets. Et c'est comme ça qu'elle aborde la langue, je crois. La spontanéité. Roland Barthes disait que la spontanéité aboutit à des stéréotypes. Ça, c'est vrai. Le cri du cœur, il peut être très souvent monotone.
Dans Le Fanal Bleu, en tout cas, on est sans cesse surpris parce que ça ne ressemble à rien de ce qu'on a pu lire de Colette. On retrouve Colette, mais voilà, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a plus de structure. Le temps s'efface, il y a quelques indications de lieu, de temps. Mais vraiment, c'est presque plus une pure affirmation de la matérialité, ce qui reste du rapport aux choses, depuis une fenêtre à un lit, avec ce qu'elle appelle son radeau de travail, c'est-à-dire son bureau qui l'accompagne.
C'est son lit.
Voilà, c'est son lit-bureau, en fait.
Oui, vraiment, c'est-à-dire, il y a une petite table sur son lit et elle écrit là-dessus.
Qui a été fabriquée, elle raconte d'ailleurs dans le Fanal Bleu comment ça a été fabriqué. Oui. Et il ne reste plus que ça, en fait. C'est-à-dire, non pas, j'ai parlé de limitation tout à l'heure, vous avez parlé d'avidité, mais il y a quand même encore une forme de, je vais le dire avec un mot un peu galvaudé, mais de gourmandise malgré tout.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, je ne trouve pas qu'on sente qu'il n'y a plus que. C'est-à-dire, ce n'est pas une réduction. C'est d'où elle est. Elle écrit à partir de ce lieu, dans cette. Elle écrit à partir de la page, en réalité. Voilà. Et le spectacle du monde, il est à la fois devant ses yeux, c'est le Palais Royal, et dans sa mémoire, tout est là au présent.
Thank you.
C'est un drôle de choix de musique.
Alors, c'est L'enfant et les sortilèges. Voilà, composé par Maurice Ravel.
D'après
le livret écrit par Colette, c'était en une fantaisie lyrique de 1925. Ça vous plaît pas, Chantal Thomas ?
Si.
Alors, cette chanson, en tout cas, pour introduire cette séquence de fin d'émission, après avoir évoqué l'œuvre qui a transformé votre vie, Colette, place à un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste, que vous n'arrivez pas à lire ou que vous parvenez très bien à lire, mais vraiment que vous n'aimez pas. Qui avez-vous choisi ? Et d'ailleurs, voulez-vous répondre à cette question ?
Alors, c'est une question qui, a priori, ne me plaît pas, parce que moi, je suis profondément pour les exercices d'admiration. Et face à cette question, au départ, j'ai pensé rien, parce que les livres qui me tombent des mains, en fait, ils me tombent des mains et je les oublie. Mais il y en a un très ancien, quand j'ai voulu lire Les jeunes filles de Monterland.
Henri de Monterland,
je me souviens que je l'ai ouvert et que les premières pages m'ont vraiment déplu et que je l'ai mis de côté. Mais les livres qui me résistent, et alors là, je pourrais dire que c'est toutes mes études de philosophie, parce que avec Kant, j'ai eu des rapports
conflictuels,
très délicats. Oui, et c'est, je n'arrivais pas à avancer dans la question, dans son questionnement. Et je crois que c'était parce que c'est existentiellement pour moi relié à rien. En fait, c'est le contraire même de tout ce qu'on vient de dire sur Colette. Le monde, alors que la critique de la raison pure pose la question de notre rapport au monde, réellement, je comprenais pas.
Mais
c'est cette incompréhension, je crois, qui m'a poussé à rejoindre mon goût profond, qui est la littérature.
C'est intéressant, cette critique de existentiellement relié à rien. C'est vrai que c'est assez frappant et que les livres de philosophie dans lesquels on entre le plus facilement, c'est ceux qui nous parlent, en fait, dans le sens où qui nous parlent comme quelqu'un nous parlerait, d'ailleurs.
Oui, je crois que je m'étais engagée dans une licence de philosophie et au-delà, puisque je suis allée jusqu'à l'agrégation, sur un malentendu, que j'avais d'abord lu Colette, après, presque en même temps, Simone de Beauvoir et Sartre. Et donc, j'ai eu comme un cheminement qui me semblait orienté vers la philosophie. Et j'en suis heureuse, parce que c'est une source de détachement et d'aventure, la philosophie. Mais à un certain degré d'abstraction, je décroche. Mais c'est pas grave, parce que je me retrouve dans d'autres jardins.
Merci beaucoup, Chantal Thomas. Vous avez réussi à seulement citer Henri de Montalembert sans rien en dire. C'est parfait. De vous, on peut lire votre dernier livre, c'est Journal d'Arizona et du Mexique, c'est paru au Seuil. Je cite aussi Souvenir de la marée basse qu'on a évoqué, écrit, inspiré par la maison de Claudine, c'est paru au Seuil aussi. Et je cite aussi votre préface au livre de Colette, Le Fanal Bleu, c'est paru en Rivage, Poche. Et pour lire toutes les œuvres de Colette, vous pouvez les trouver aux éditions Gallimard, en livre de poche, en bouquin chez Robert Laffont et tant d'autres possibilités. Et un grand merci à Manon Delasselle qui a préparé l'émission, à Nicolas Berger à la réalisation, à Ludovic Auger à la prise de son. Toutes les émissions sont disponibles sur le site et sur l'application Radio France. Lundi, c'est Géraldine Mulman et son équipe que vous retrouverez à ce micro pour une nouvelle série d'émissions d'Avec Philosophie.